Chapitre 63. Assis à même le sol, Richard leva les yeux quand il vit entrer Warren. Son ami avait frappé, mais il n'avait rien entendu. Le voyant si abattu, la taupe vint s'agenouiller près de lui.
« Richard, j'ai réfléchi à quelque chose que tu m'as dit. Tu étais sur le point d'épouser la mère inquisitrice ?»
Le sourcier sortit de son hébétitude. La prophétie qui se réalisera au solstice d'hiver la concerne, n'est-ce pas?
C'est possible, mais je n'en sais pas assez long pour le dire. La mère inquisitrice porte-t-elle du blanc?
Oui, les inquisitrices ont pour vocation de découvrir la vérité, et elle est la dernière.
Une formidable nouvelle! Selon moi, au solstice d'hiver, elle trouvera le bonheur et l'apportera à son peuple.
Richard se souvint de sa vision, dans la tour de la perdition. À cause de l'horreur de ces instants, les paroles de Callan étaient à jamais gravées dans sa mémoire. Il les cita à Warren. « Parmi tous ceux qui sont nés de la magie pour délivrer la vérité, un seul survivra quand la menace des ténèbres sera dissipée. Alors viendra une pire obscurité, celle des morts. Afin que la vie ait une chance, celle qui est en blanc devra être offerte à son peuple pour lui apporter la joie et la prospérité. »
C'est exactement ça. Je crois que la pire obscurité fait référence aux gardiens et au solstice d'hiver. Et selon moi, ça veut dire... Richard, où as-tu lu cette prophétie?
Nulle part. La mère inquisitrice me l'a récitée dans une vision. Warren écarquilla les yeux.
Tu as eu une vision prophétique?
Oui. Elle m'a récité le texte et montré ce qu'il signifiait.
À savoir?
Je ne peux pas te le dire. Elle m'a précisé que j'avais le droit de répéter les mots, mais pas de décrire la vision.
Je ne peux pas passer outre cette interdiction sans connaître les conséquences d'une transgression.
Mais sache que la réalisation de cette prophétie ne lui apportera aucune joie, et à moi non plus.
Tu as raison,
fit Warren après une courte réflexion.
Richard, je dois te dire au sujet des prophéties quelque chose que peu de gens connaissent. Les mots ne sont pas toujours le reflet de leur sens véritable.
Que veux-tu dire?
Parfois, en lisant une prophétie, il m'arrive d'avoir une vision. Elle se réalise comme la prédiction, mais pas de la façon qu'on imagine en lisant le texte. Selon moi, la véritable manière d'interpréter ces phrases passe par le don et par les visions.
Les sœurs le savent-elles?
Non, je crois que c'est le privilège des prophètes. Si tu as entendu les mots et eu une vision, tu en es peut-être un.
D'après la dame abbesse, j'ai un autre talent. Si elle a raison, avoir eu cette vision peut être simplement une composante de mon aptitude à être ce que je suis vraiment.
Et tu serais quoi?
Un sorcier de guerre. Warren blêmit.
Ces sorciers-là ont le don pour les deux magies. Il y a des milliers d'années que personne n'est né avec le don de la magie soustractive. La dame abbesse se trompe peut-être.
Je suis le premier à l'espérer, mais ça expliquerait tant de choses. Un de mes amis m'a dit que la magie additive utilise ce qui existe pour le multiplier ou l'altérer. En somme, son domaine, c'est le faire. La magie soustractive défait les choses.
Les boucliers des sœurs participent de la magie additive. Même ceux qui ont le don peinent à les traverser, parce qu'ils contrôlent la même variante de pouvoir. Moi, je les franchis sans même y penser.
L'intervention de la magie soustractive expliquerait ce phénomène. L'additive fait, et la soustractive défait.
Tu as essayé, m'as-tu dit, de franchir la barrière qui nous empêche de partir d'ici. C'est une sorte de bouclier. Si tu contrôlais la magie soustractive, tu aurais dû pouvoir passer.
Warren, fit Richard soudain pensif. Qui a érigé cette barrière?
Ceux qui ont mis en place toute la magie du palais? Les sorciers de l'ancien temps? Ceux qui maîtrisaient aussi la magie soustractive. Et c'est le seul bouclier qu'ils aient installé. L'unique que ma magie soustractive, si tout ça est vrai, ne peut pas neutraliser. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, ça se tient.
Et ça colle avec certaines prophéties te concernant. Si tu es vraiment un sorcier de guerre, et celui qui est né dans la vérité.
Ces prophéties disent-elles si je vaincrais?
Warren jeta un coup d'œil hésitant à l'épée posée non loin du sourcier.
Si je dis « lame blanche », ça évoque quelque chose pour toi?
Richard soupira au souvenir de cet atroce moment de sa vie.
Je peux faire virer la lame de mon épée au blanc avec la magie. Alors j'ai peur que nous soyons dans Tsaldra. Une prophétie dit « Si les forces de la confiscation se déchaînent, le monde sera obscurci par une luxure plus noire encore qui jaillira de la déchirure. Les chances de salut alors seront aussi fines que la lame blanche de celui qui est né dans la vérité. »
La déchirure. Une autre façon de nommer le portail.
Dans ce cas, la luxure plus noire serait le gardien?
Warren, je dois faire quelque chose au sujet de cette prophétie. C'est très important. Tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider?
La taupe hésita un long moment.
Oui, enfin, je crois. Un prophète est hébergé au palais. On ne m'a pas autorisé à le voir. Selon les sœurs, ce serait trop dangereux tant que je sais si peu de choses, mais elles ont promis plus tard de me laisser parler avec lui.
Où est-il hébergé?
Je l'ignore. Dans une des zones interdites, sans doute. Mais laquelle? Je n'en sais rien et je ne vois pas comment le découvrir.
Moi si, conclut Richard en se levant.
Le sourcier sut qu'il s'était adressé au bon garde lorsque le pauvre Kevin Andelmer devint blanc comme un linge à la mention du prophète. Au début, il feignit de ne rien savoir, mais quand Richard lui rappela avec tact tout ce qu'il lui devait, le soldat lui révéla ce qu'il voulait apprendre. L'endroit où résidait le prophète était un des plus surveillés du palais. Richard savait où se tenaient les gardes, car il était souvent allé cueillir des fleurs à cet endroit, s'offrant même une promenade sur les remparts pour admirer l'océan. Autre avantage, ces soldats étaient des clients assidus du bordel qu'il avait réquisitionné. Il ne ralentit pas en passant le portail, se contentant de répondre d'un hochement de tête au clin d'œil de ses copains militaires. Ceux qui défendaient l'accès aux remparts, plus coriaces, tentèrent de l'empêcher de passer. Il répondit à leurs cris et à leurs gestes par de grands saluts amicaux, comme s'il pensait qu'ils le congratulaient. Ils finirent par abandonner, reprirent leur poste et le regardèrent s'éloigner, sa cape ouverte volant derrière lui. Au bout du chemin de ronde, un escalier en colimaçon conduisait au quartier du prophète. Les gardes affectés à la porte étaient les deux types qu'il avait eu tant de mal à se mettre dans la poche, ceux à qui il avait offert deux femmes à la fois. Et ils se redressèrent en le voyant.
« Walsh, Bolesden, comment ça va les amis ?»
Les deux hommes placèrent leur pique en travers de la porte.
« Richard, qu'est-ce que tu fiches ici? Les roses poussent à la surface. »«
Walsh, je veux voir le prophète. »«
Ne nous mets pas dans l'embarras. Tu sais que nous ne pouvons pas. Les sœurs nous écorcheraient vifs. »«
Je ne leur dirai pas que vous m'avez laissé entrer. Si quelqu'un apprend notre petit secret, prétendez que vous ne m'avez pas vu passer. Je confirmerai si nécessaire. »«
Richard, tu es vraiment... »
Vous ai-je jamais apporté des ennuis?
Depuis mon arrivée, je vous paie à boire, je vous prête de l'argent et je vous fournis des filles. Ai-je demandé un service en retour?
Le sourcier posa la main sur la garde de son arme. D'une façon ou d'une autre, il franchirait cette porte.
Walsh écarta sa pique.
Bolesden, va faire ta ronde, moi j'ai un besoin urgent de pisser.
Merci, Walsh, dit Richard.
Je te revaudrai ça.
En approchant des quartiers du prophète, le sourcier sentit des boucliers qui le ralentirent à peine. La pièce où il entra était aussi spacieuse que la sienne et encore plus richement meublée. Il y régnait un remarquable désordre, des livres gisant un peu partout, y compris sur le sol couvert de tapis bleus et jaunes. Un homme était assis devant la cheminée éteinte.
« Il faudra me dire comment tu as réussi ce coup-là. »
lança-t-il d'une voix profonde sans se retourner.
« J'adorerais connaître ce truc. »«
Quel truc ?»«
Celui qui te permet de traverser les boucliers. Moi, je grillerais vif. »«
Si je découvre un jour comment ça marche, je ne manquerai pas de vous informer.
Et si vous n'êtes pas trop occupé, j'aimerais vous parler. Au fait, mon nom est Richard.
Occupé, la bonne blague!
L'homme se leva en riant aux éclats. Richard fut surpris par sa taille. À voir ses cheveux blancs, il s'attendait à découvrir un vieillard ratatiné. Il ne s'était pas trompé sur l'âge du bonhomme, mais on ne pouvait pas le qualifier de vieillard, et il n'avait rien de ratatiné. Véritable force de la nature, il afficha en se retournant un sourire à la fois convivial et terrifiant. Comme le sourcier, il portait un radahan.
« Je m'appelle Nathan Richard, et j'attendais impatiemment notre rencontre. Mais je n'aurais pas cru que tu trouverais ton chemin tout seul.
C'était essentiel pour que nous puissions parler librement.
Sais-tu que je suis un prophète ?
Je ne suis pas venu apprendre à cuire le pain. » Cette fois, Nathan sourit, mais il n'éclata pas de rire. Les sourcils froncés, il baissa le ton et siffla.
« Tu veux que je te parle de ta mort, Richard ? De la façon dont tu rendras l'âme ?»
Le sourcier se laissa tomber sur un sofa et posa les pieds sur une table. Soutenant le regard du vieil homme, il se fendit aussi d'un sourire terrifiant.
« Avec plaisir. Je brûle de connaître tous les détails de ma fin. Quand vous aurez fini, je décrirai votre mort. »« Tu es un prophète, gamin ?»«
Assez pour vous dire comment vous mourrez. »«
Sans blague. Vas-y, ça m'intéresse rudement. »
Richard prit une poire dans une superbe coupe posée sur la table, la frotta contre sa jambe de pantalon et la mordit à belles dents.
« Vous crèverez ici, Nathan, dans cette pièce, très très vieux et sans avoir jamais revu le monde extérieur. »« On dirait que tu es un foutu prophète, mon gars !»
grogna Nathan, l'air maussade.
« En revanche, si vous m'aidez, il y a des chances pour que je revienne vous faire sortir de ce trou à rats. »« Et que veux-tu ?»«
Me débarrasser de ce collier. » »«
On dirait que nous avons des objectifs communs, hein, Richard ?»«
L'ennui, selon les sœurs, c'est que je ne vivrai pas longtemps sans mon radahan. » »«
Ces mégères exigent que les autres soient sincères, mais elles s'embarrassent une fois par siècle de l'être en retour. » Elles ont leur façon de voir les choses, mon garçon. Par bonheur, il n'y a jamais qu'un seul chemin pour traverser une forêt.
Elles disent que je dois d'abord savoir utiliser mon han. À la vitesse où elles me forment, je mourrai de vieillesse avant.
Tu aurais plus de chances d'apprendre à chanter à une souche. Ces bonnes femmes sont incapables de t'enseigner ça. Fiston, tu as le double don. Elles ne peuvent rien pour toi.
Et vous ?
Peut-être.
Le prophète fit tourner son fauteuil, se rassit et dévisagea Richard.
Dis-moi, as-tu lu les aventures de Bonnie Day ?
Lu et relu. C'est mon livre de chevet. J'adorerais rencontrer son auteur et le féliciter. Nathan rayonna soudain.
« Fiston, tu as ce génie sous les yeux. »«
Quoi ?»
s'écria Richard.
« C'est vous qui... sans blague !»
Nathan cita quelques passages du roman pour montrer qu'il n'affabulait pas.
« J'ai donné ce livre à ton père, avec mission de te le remettre quand tu serais en âge de lire. À l'époque, tu venais de naître. »
« Vous étiez avec George et la dame Abbesse ? Elle ne me l'a pas raconté ?»«
Dire la vérité n'a jamais été son fort. Anna n'avait pas le pouvoir d'entrer dans la forteresse du sorcier. J'ai aidé George à s'y introduire pour qu'il subtilise le grimoire des ombres recensées. On trouve des livres de prophéties sacrément intéressants en Aydindril. »
On dirait que... « Nous sommes de vieilles connaissances ?»
souffla le sourcier.
« Plus que ça, Richard Rall. C'est Nathan Rall qui te le dit. »
Pardon? Vous seriez mon arrière-arrière quelque chose?
Il faudrait trop longtemps pour citer tous les arrières, petit. Je fais très bientôt mon 1000e anniversaire.
Nathan brandit un index sentencieux.
Je m'intéresse à toi depuis longtemps, parce que tu figures dans les prophéties. J'ai écrit les aventures de Bonnie Day pour les gamins dotés d'un grand potentiel. En somme, c'est un livre de prophéties. Assez simple pour qu'un jeune esprit le comprenne et en tire de précieuses leçons. Ce bouquin t'a aidé?
Plus d'une fois?
Avoua Richard, toujours éberlué.
Voilà qui me comble d'aise. Nous avions donné le livre à une poignée de gamins triés sur le volet. Tu es le dernier vivant. Les autres sont morts dans des accidents inexplicables.
Richard finit la poire, histoire de se donner le temps de réfléchir. Décidément, tout ce qui concernait la magie soustractive dans sa vie lui déplaisait beaucoup.
Vous pourriez m'aider à utiliser mon pouvoir ?
Fais fonctionner tes méninges, gamin. Les sœurs t'ont-elles torturé avec le Rada Han ?
Non, mais elles y viendront.
Livrez la guerre de la veille, Richard. Tu te souviens de ce que Bonnie Day dit aux soldats de Warwick qui protègent les Landes ? L'ennemi n'attaquera pas deux fois de la même façon. Et vous gaspillez stupidement votre énergie à tenter de livrer la guerre de la veille.
Nathan fronça les sourcils.
Il semble que tu n'aies pas assimilé cette leçon. Quelque chose t'est arrivé une fois, fiston.
Ça ne veut pas dire que ça se reproduira.
Pense à demain, pas à hier.
Dans une tour, j'ai eu une vision. Sœur Verna utilisait le collier pour me faire souffrir.
Et ça t'a mis en rage ?
Oui, j'ai invoqué ma magie et je l'ai tuée.
Nathan secoua la tête, l'air un peu déçu.
Cette vision venait de ton esprit, qui essayait de te dire quelque chose. Tu devines quoi ? Que tu es capable de te défendre si les sœurs essaient ce coup-là et que tu les vaincrais. Ton cerveau et ton don coopéraient. Mais tu n'as pas capté le message, trop occupé à livrer la guerre de la veille.
Vexé, Richard ne fit pas de commentaire. Il avait eu peur que les sœurs ne le torturent, comme Dena, négligeant ainsi leurs autres moyens de lui nuire. Par peur de revivre un cauchemar, il n'avait pas compris le comportement de Callan. Pourtant, Zed lui avait appris à penser à la solution, pas au problème. Mais l'arbre du passé lui avait caché la forêt de l'avenir.
« Je vois ce que vous voulez dire, Nathan, »
admit-il enfin.
« Mais pourquoi les sœurs n'ont-elles pas tenté de me torturer avec le collier ?»«
Anna sait que tu es un sorcier de guerre. Je le lui ai annoncé 500 ans avant ta naissance. Elle a dû donner des ordres aux sœurs. Faire souffrir un type comme toi est aussi idiot que frapper un putois sur le cul. »
Vous pensez que la douleur est la clé de mon pouvoir ?
Non, son résultat, la colère.
Nathan désigna l'épée de vérité.
C'est comme ça que tu utilises cette lame. Ta colère invoque la magie. C'est plus compliqué que ça. Tu invoques la magie qui éveille ta colère, laquelle permet à la magie de fonctionner. Tu me suis ? « Voudrais-tu que je te montre comment toucher ton Han ?»«
Oui, »
répondit Richard.
« Je n'espérais pas que vous me le proposeriez, mais j'accepte avec joie. Il faut que je parte d'ici. »«
Tends la main, paume visible. »« Très bien. »
Le prophète sembla soudain auréolé d'une incroyable autorité.
« À présent, noie-toi dans mon regard. »
Richard s'immergea dans les yeux bleus azur de Nathan. Sa respiration s'accéléra, comme quand il était foudrage, mais ça n'était pas le fait de sa volonté.
« Invoque la colère, sorcier. Appelle-en à la rage, à la haine et au courroux. »
Richard éprouva la même furie que lorsqu'il dégainait l'épée.
« À présent, sens la chaleur que diffuse ton ire, brûle-toi à ces flammes, puis concentre toutes ces sensations sur la paume de ta main. »
Le sourcier obéit, ses dents grinçant à cause du pouvoir qui circulait en lui.
« Regarde ta paume, vois ce que tu éprouves. »
Richard baissa les yeux sur sa main. Une boule de feu bleu et jaune lévitait au-dessus de sa peau. Quand le flot de fureur augmenta, la sphère grossit.
« Dirige la rage, la haine, la colère et le feu vers la cheminée. »
Le sourcier tendit la main. La boule de feu se déplaça avec elle. Alors il regarda la cheminée et expulsa la rage de son corps et de son esprit.
Le projectile magique percuta le foyer et explosa avec un craquement semblable à celui d'un éclair.
« Voilà comment tu dois faire, mon garçon !»
rayonna Nathan, très fier de lui.
« Même en 100 ans, les sœurs ne seraient pas fichues de t'apprendre ça. Pas de doute, tu es un sorcier de guerre, un instinctif !»«
Nathan, je n'ai pas senti mon Han. » À vrai dire, je n'ai rien éprouvé de nouveau. La colère était la même que lorsque j'utilise l'épée. J'ai une réaction identique quand je me coince un doigt dans une porte.
Tu te trompes, mon enfant. Tu es un sorcier de guerre. Les autres détiennent seulement une facette du don. Pour leur magie, ils utilisent ce qui est à leur disposition. L'air, la chaleur, le feu, le froid ou l'eau. Les sorciers de guerre ne fonctionnent pas comme ça. Ils puisent le pouvoir en eux-mêmes, comprends-tu? Cela ne contrôle pas leur Han, mais leurs sentiments. Les sœurs veulent enseigner le pourquoi et le comment de toutes choses. Pour ton type de pouvoir, ça n'a aucun sens. Dans ton cas, seuls les résultats comptent, car tu puises ta magie à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que les sœurs ne peuvent rien t'enseigner.
Que voulez-vous dire?
As-tu jamais vu une couturière piquer son épingle à côté d'une pelote? Les sœurs veulent que tu observes ta main, l'épingle et la pelote. Les autres sorciers utilisent leur magie comme ça. Ceux de ton espèce n'observent rien. Ils font. Leur Han agit instinctivement.
Tout à l'heure, c'était du feu de sorcier?
Le feu de sorcier est comparable à un taureau enragé. Ce que tu as fait me rappelle plutôt un papillon énervé.
Richard essaya de nouveau.
Rien ne se produisit. La colère se refusa à lui. Il aurait pu invoquer la rage de l'épée, mais elle était différente de celle que Nathan avait fait jaillir de lui. Ça ne marche pas. Pourquoi?
Parce que je t'ai aidé, te guidant avec mon propre pouvoir. Pour le moment, tu ne peux pas réussir ça seul.
Pour quelle raison?
Nathan tendit une main et tapota le crâne du sourcier.
Parce que ça doit venir de là-dedans. Il faut que tu t'acceptes toi-même, fiston. Pour l'instant, tu n'y crois pas et tu luttes contre ta véritable nature. Tant qu'il en sera ainsi, tu ne pourras pas accéder à ton Han, sauf en cas de grave danger.
Et les migraines que m'inflige mon don? D'après les sœurs, sans le collier, elles me tueraient.
Pour les sœurs, la vérité est un morceau de viande plein de nerfs et de tendons. Elles en mangent uniquement quand elles crèvent de faim. Ces garces vous font prisonniers pour que nous devenions comme elles. Ce qu'elles tentent d'accomplir quand elles travaillent avec toi, c'est exactement ce que je viens de réussir. Les migraines sont dangereuses, c'est vrai, mais seulement quand on laisse un jeune sorcier se débrouiller seul avec son pouvoir. Quand tu en avais, parvenais-tu à les enrayer?
Oui, lorsque je me concentrais sur le tir à l'arc, quand j'étais en danger, ou quand je puisais la magie de l'épée, elle me laissait tranquille.
Parce que le don était en harmonie avec ton esprit.
Pour que la magie ne te nuise pas, il suffit d'une formation du type de celle que je viens de te prodiguer.
Entraîner les sorciers devrait être le privilège exclusif des sorciers. Pour un collègue plus expérimenté, mettre ton esprit et ton don en harmonie est un jeu d'enfant.
Tu sais pourquoi?
Parce qu'un Han masculin éduque un Han masculin. Ce que nous venons de faire suffit à empêcher le don de te nuire, pour un très long moment et sans avoir besoin du Radha Han. Plus tard, t'associer à un sorcier te permettra d'aborder la prochaine étape et te protégera tant que tu ne l'auras pas franchi. Les sœurs auraient eu besoin de 100 ans pour te montrer, peut-être, ce que je t'ai fait découvrir ce soir. Les migraines sont un prétexte pour nous mettre un Radha Han. Elles nous capturent, parce qu'elles ont une vision très particulière de la formation d'un sorcier. En réalité, leur but est de nous contrôler.
Pourquoi ?
Elles nous jugent responsables de tous les maux qui ont accablé l'humanité. En nous emprisonnant, puis en nous endoctrinant, elles espèrent apporter à tous les peuples la lumière de leur théologie à la noix. Ce sont des fanatiques, Richard. Elles prétendent être les seules à connaître le chemin qui mène directement à la droite du Créateur. Bien entendu, avec des idées aussi foireuses, elles pensent que la fin justifie les moyens.
« Si j'ai bien compris, dit Richard, notre petite séance de tout à l'heure suffit à empêcher le don de me tuer, même si je ne porte plus de collier. »«
En gros, c'est ça. Mais il faudra beaucoup d'autres séances, comme tu dis, pour que tu deviennes un véritable sorcier. J'ai en quelque sorte retenu les talons par son mort pour qu'il ne te désarçonne pas. Ne va pas te prendre pour un cavalier mérite.
Si vous avez raison, fit Richard les mâchoires serrées, les sœurs ont vraiment frappé un putois sur le cul. Merci de m'avoir aidé, Nathan. Des heures sombres nous attendent, et c'est pour bientôt. J'ai besoin d'informations. Connaissez-vous la deuxième leçon du sorcier ?
Bien entendu. Mais tu dois apprendre la première avant de découvrir celle-là.
C'est déjà fait. J'ai tué Darkenral avec la première leçon. Elle dit que les gens croient n'importe quoi, parce qu'ils ont envie d'y croire ou parce qu'ils ont peur que ce ne soit vrai.
Et qui ne fonctionne pas ainsi ?
Personne. C'est le grand secret. Je dois être sans cesse vigilant, ne pas me croire immunisé et savoir que je reste vulnérable à la crédulité. Bref, rien n'empêche que je sois un jour victime de la première leçon.
Excellent.
Alors, la deuxième?
C'est une affaire de... résultats imprévus.
Pardon?
La deuxième leçon... dit que les pires maux découlent des meilleures intentions. Ça semble paradoxal, mais la bonté et la bienveillance peuvent être un chemin insidieux vers la destruction. Parfois, faire ce qui semble bien est une erreur. Le seul remède, c'est la connaissance, la sagesse, la prévoyance et une bonne compréhension de la première leçon. Mais ça n'est pas toujours assez.
Avoir de bonnes intentions et faire le bien peut être destructeur ? Comment ? Nathan haussa les épaules.
Il peut paraître gentil de donner des sucreries à un enfant. Les gosses aiment tant ça. Mais la connaissance, la sagesse et la prévoyance nous avertissent que ça le rendra malade s'il ne consomme que ça au détriment d'une nourriture saine.
Tout le monde sait ça.
Alors prenons un autre exemple. Une personne se casse la jambe et tu lui apportes à manger pendant sa convalescence. Le temps passe, mais le malade ne veut toujours pas se lever parce que la rééducation est douloureuse. Du coup, tu continues à le nourrir. Au fil du temps, la jambe perd ses muscles et il devient encore plus difficile de l'utiliser. Toi, tu joues toujours les pères nourriciers. À la fin, ton patient sera impotent à cause de ta gentillesse. Tes bonnes intentions auront provoqué un désastre.
Ce genre de situation est trop rare pour être un problème.
Richard, je te donne volontairement des exemples simples. Tente de les appliquer à des cas plus difficiles et tu comprendras une loi qui peut paraître absconce. Trop de gentillesse peut encourager la paresse et rendre indolent un esprit pourtant sain. Plus on aide les gens, plus ils ont besoin d'assistance. Si ta bienveillance n'a pas de limite, elle les privera de la discipline, de la dignité et de la confiance en soi dont ils ont besoin. Ta bonté finira par les dévaloriser. Imagine que tu donnes une pièce à un mendiant dont la famille, dit-il, meurt de faim. Au lieu d'acheter à manger, il se saoule et tue quelqu'un. Es-tu coupable? Non, puisque c'est lui qui a pris une vie. Mais si tu lui avais offert de la nourriture, ou si tu étais allé en apporter au sien, il n'y aurait pas eu de crime. Tes bonnes intentions, une fois encore, ont mal tourné. C'est ça, la deuxième leçon du sorcier. La violer peut avoir des conséquences désastreuses. Certains dirigeants prêchent la non-violence et condamnent même la légitime défense. La meilleure intention du monde, non? Hélas, ça conduit souvent à des massacres, alors que la menace d'une riposte aurait empêché l'attaque et renforcé la paix. Ces gens placent l'idéalisme au-dessus des réalités de la vie. Ils accusent les guerriers d'être assoiffés de sang alors qu'ils auraient pu éviter une boucherie.
Vous essayez de dire que je ne dois pas avoir honte d'être un sorcier de guerre?
Vanter les mérites d'un régime végétarien ne fait aucun bien aux moutons si les loups refusent de changer d'habitudes alimentaires.
Richard eut soudain l'impression de converser avec son bon vieux Zed. D'accord, mais la gentillesse ne peut pas être toujours néfaste.
Bien sûr que non. C'est là qu'intervient la sagesse. Il faut être assez avisé pour prévoir les conséquences de ses actes. Le problème avec la deuxième leçon, c'est qu'on ne peut jamais dire si on y contrevient ou si on agit comme il faut. En plus, la magie est dangereuse. Quand on la combine à de bonnes intentions, il faut savoir quel flocon de neige sera de trop sur le versant de la montagne. Car les ravages de l'avalanche seront sans rapport avec le poids du minuscule flocon que tu auras ajouté sans y voir de mal.
Nathan, fit Richard en posant le bout des doigts sur la garde de son épée. Je crains d'avoir déchiré le voile en violant la deuxième leçon.
Ta crainte est justifiée.
Mais comment ai-je fait ça?
Tu as utilisé ta magie pour vaincre. Cela a nourri celle des boîtes et du portail et déchiré le voile. Ton péché fut l'ignorance. Tu ne savais pas que les résultats imprévus de ta bonne action risquaient de détruire toute vie. Un insignifiant flocon de neige. Oui, fiston, la magie est dangereuse.
Comment réparer mon erreur?
La pierre des larmes doit retourner chez le gardien et il faudra refermer le verrou. Quand la pierre sera revenue dans le royaume des morts, l'influence du gardien sur notre monde diminuera. Pour réussir ça, il faut contrôler les deux magies. Ensuite, il conviendra de faire tourner la clé dans le verrou, c'est-à-dire fermer le portail. Pour ça aussi, les deux magies sont indispensables. Tenter l'aventure avec une seule éventrera le voile. Un sorcier comme moi, exclusivement doué pour la magie additive, ne peut rien faire. Toi, en revanche, tant que ce ne sera pas accompli, nous serons en danger. Si tu te trompes, ou si tu te sers de la pierre à des fins égoïstes, tu es assez puissant pour détruire l'équilibre, finir de déchirer le voile et nous condamner tous à une nuit éternelle.
Nathan, savez-vous ce qu'est
un agent.
Tu parles des problèmes prévus pour le prochain solstice d'hiver? Un agent est quelqu'un qui commerce avec le gardien. Par exemple, en lui livrant des âmes d'enfants innocents en échange de connaissances sur la magie soustractive.
Nathan jeta un regard noir au sourcier.
Mais ça n'est pas grave, puisque tu as expédié Darkenral dans le royaume des morts, d'où il n'a aucun pouvoir sur notre monde. Il est bien dans le royaume des morts, n'est-ce pas?
L'estomac de Richard se noie. Non content d'avoir déchiré le voile, il avait violé une seconde fois la deuxième leçon en convoquant un conseil des devins. À cause de lui, Darkenral, un agent, était revenu dans le monde des vivants où il pourrait s'attaquer au voile. De quoi se sentir très mal. Nathan, je dois me débarrasser de ce collier.
Désolé, mais je ne peux pas t'aider.
Venu pour ça, le sourcier décida de poser la question qui le hantait.
Nathan, il y a une personne très importante pour moi. Elle est en danger et je dois voler à son secours. Il existe une prophétie à son sujet, et j'ai également eu une vision.
Quelle prophétie?
Parmi tous ceux qui sont nés de la magie pour délivrer la vérité, un seul survivra quand la menace des ténèbres sera dissipée.
De sa voix profonde, Nathan prit le relais.
Alors viendra une pire obscurité, celle des morts. Afin que la vie ait une chance, celle qui est en blanc devra être offerte à son peuple pour lui apporter la joie et la prospérité.
Donc vous savez tout à ce sujet? Nathan, j'ai vu la prophétie se réaliser. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais ça n'avait rien de joyeux à mes yeux.
Elle sera décapitée,
lâcha le prophète.
C'est le véritable sens du texte.
Nathan, il faut que je parte d'ici. Ça ne doit pas arriver.
Fiston, regarde-moi et retiens tes larmes. Tu dois savoir la vérité. Si cette prédiction ne se réalise pas, il n'y a rien au-delà. Nous mourrons tous. Plus de vie nulle part. La victoire totale du gardien. Sers-toi de ton pouvoir pour modifier les événements. Et tu déchireras totalement le voile. Alors le gardien engloutira le monde des vivants.
Pourquoi?
Cria Richard en se levant.
Au nom de quoi devrait-elle se sacrifier pour préserver la vie? C'est absurde!
Il ferma le poing sur la garde de son arme.
J'empêcherai ça. Elle ne mourra pas à cause d'une stupide devinette.
Richard, un jour viendra où tu devras faire un choix. Depuis très longtemps, j'espère que tu sauras, quand l'heure sonnera, prendre la bonne décision. Si tu te trompes, tu as le pouvoir de nous détruire tous.
Je ne resterai pas ici à vous écouter prétendre qu'il faut la laisser mourir. Les esprits du bien n'ont rien fait pour l'aider, donc je dois me substituer à eux.
Richard sortit en trompe de la pièce. Sur son passage, les murs du couloir se craquelèrent et des fragments de plâtre tombèrent du plafond. Il s'en aperçut à peine, mais cela le combla d'aise, considérant son humeur. Quand il traversa le bouclier, la peinture des murs se lézarda.
Ses pensées tourbillonnaient dans toutes les directions. S'il ne faisait rien, il le savait désormais, sa vision se réaliserait.
Pour sauver Kalan, il devait sortir d'ici. Mais le sens caché de la prophétie était peut-être qu'il n'y parviendrait pas. Dans la cour intérieure de ce bâtiment du palais, il vit des gardes affolés courir en tous sens. Cette panique ne l'étonna plus quand il aperçut un guerrier Bakaban Mana encerclé par une centaine de soldats qui le lorgnaient d'un air méfiant sans trop oser avancer. Et l'homme semblait s'en ficher comme d'une guigne. À coups de coude, le sourcier se fraya un chemin jusqu'à lui.
« Que fais-tu ici ?»«
Kaharin, fit le guerrier en s'inclinant. « Je me nomme Jian. Ton épouse, Dushayu, m'envoie te délivrer un message. »
Pour l'heure, Richard décida de ne pas polémiquer sur la notion d'épouse.
« Je t'écoute. » Elle a suivi les instructions de son cher mari. Nous sommes désormais en paix avec les Majendis et avec les gens qui vivent ici.
Une merveilleuse nouvelle, Jian.
Dis-lui que je suis très fier d'elle et de votre peuple.
Notre peuple, corrigea Jian.
Je dois aussi t'apprendre qu'elle a décidé de garder l'enfant, et que nous sommes prêts à retourner vers notre terre ancestrale. Elle veut savoir quand tu reviendras afin de nous guider.
Richard balaya la foule du regard. Il y avait des soldats, mais aussi des sœurs. Il reconnut certaines de ses formatrices, Tovi, Nichi et Armina. Pacha aussi était là, tout comme Sœur Verna au dernier rang des curieux. Pour ne rien arranger, il reconnut sur un lointain balcon la silhouette ramassée de la dame abbesse.
Jian, dis-leur de se tenir prêt, je viendrai bientôt.
Merci, Kaharin. Nous t'attendrons.
Cet homme est venu en paix,
cria Richard aux soldats.
J'entends qu'il reparte librement.
Jian s'éloigna, nonchalant, comme s'il était seul dans la cour. Les gardes le suivirent. Il ne le lâcherait pas d'un pouce, devina le sourcier, avant qu'il soit sorti de la ville. Les curieux se dispersèrent. Le cœur de Richard battait la chamade. En violant une seconde fois la deuxième leçon dans la maison des esprits, il avait ramené son père dans le monde des vivants. Une bonne intention catastrophique. Selon Warren, le gardien avait besoin d'un agent pour s'évader, et il lui en avait obligeamment fourni un. Un cauchemar. Il venait de découvrir que Kalan n'avait jamais cessé de l'aimer, et voilà qu'il était coincé ici pour des siècles. S'il ne trouvait pas un moyen de filer, sa bien-aimée périrait pendant le solstice d'hiver. Les pensées tournaient dans sa tête, lui donnant le mal de mer. Conscient d'avoir peu de temps devant lui, il décida d'aller voir la seule personne susceptible de l'aider.